Alors, peut-être dans un premier temps, tu peux présenter rapidement quelle est cette exposition, quel est ce projet.
D'accord.
Il faut que tu parles fort parce que les gens t'écoutent via ce micro.
Ok. Voilà. Donc,
tu peux te présenter aussi. Okay.
Moi, je m'appelle Shuailo et je suis la commissaire associée pour cette exposition qui est intitulée Le banquet en errance. Et c'est un projet d'exposition itinérante de Taïwan qui est soutenu par le ministère de la Culture à Taïwan. Et on montre du coup des artistes taïwanais de manière internationale. Donc la première étape, c'était en Indonésie en mois d'août. Et ensuite Paris, c'est notre deuxième étape. Et au mois de mai 2025, ce sera à Vienne. Et ensuite, en 2026, il y aura une grande exposition concluante qui aura lieu au musée de Beaux-Arts à Kaohsiung, à Taïwan. Voilà, donc chaque fois, on présente des artistes un peu différents, un peu adaptés au lieu. En fait, le titre, le banquet en errance, c'est un concept, en fait, le banquet, Piao Liu Ye, c'est son titre en chinois mandarin. Le banquet, en fait, c'est, en taïwanais, on dit plutôt panto. C'est quelque chose qu'on fait traditionnellement. C'est une table ronde, on invite les amis, la famille, pour toute occasion. Donc pour manger ensemble, pour boire ensemble, c'est une occasion pour se partager, pour échanger. Donc on espère que nos expositions seront pareilles. C'est aussi des occasions pour réunir les gens et aussi pour échanger avec la culture locale. Et donc dimanche dernier, on a eu donc ce projet culinaire Island Kitchen où on a présenté la cuisine taïwanaise mais aussi la cuisine coréenne comme voilà, c'est une artiste coréenne qui fait partie de l'exposition. Et ensuite voilà, du coup je dis on présente des artistes qui s'adaptent, qui correspondent à l'esprit du lieu aussi, parce qu'on sait c'est un lieu de rencontre. Donc cette forme de l'exposition ne dure pas très très longtemps, ça dure 10 jours, mais on a plein de rencontres, comme ce soir, comme dimanche dernier, etc.
Dimanche prochain aussi,
avec une
performance sonore.
C'est ça. Et donc on a choisi aussi des artistes, beaucoup ce sont des vidéastes qui font des performances, qui vont aller à l'encontre des gens de différentes communautés à Taïwan, que vous pouvez voir dans les œuvres. Et donc en fait ce sont des artistes, pour la plupart, ils sont assez engagés politiquement et écologiquement aussi. C'est ce qu'on va développer un peu plus tout à l'heure.
Tu peux mentionner brièvement qui sont les artistes.
On a par exemple Yao Ruizhong, qui est là, voilà. C'est un artiste qui... C'est un artiste qui est assez influent, assez important à Taïwan et qui est également commissaire d'exposition critique d'art, etc. Et il y a cette vidéo, c'est Wang Dingye. Donc c'est un artiste qui a fait l'art et la philosophie en Allemagne. Et donc son œuvre est assez pure, qui pose des questions assez essentielles à travers l'acte de manger, rapport à la relation entre les humains. Et il y a aussi dans le cage d'escalier les œuvres de Zheng Wanting. Donc Wanting, c'est à la base c'est une chercheuse en horticulture et en agriculture pendant des vingtaines d'années. Elle enseignait à l'université ses techniques, mais elle commençait du coup à faire de l'art à base à partir de sa passion qui est des plantes. Et donc des plantes très particulière des plantes où il y a, qu'on se trouve que à Taïwan, et aussi beaucoup de plantes qui sont influencées par l'environnement, qui sont des indicateurs d'environnement, etc. Donc elle a créé toute une série de tableaux. Et elle n'est pas que peintre, elle fait également beaucoup d'installations avec des feuilles, des graines, des plantes.
Et elle a cuisiné aussi dimanche aussi.
Oui, c'est ça. Mais bon, ça fait pas partie de sa pratique habituelle.
Non, c'est, elle a cuisiné des choses très intéressantes.
Oui, c'est ça, avec emballé dans une feuille de bananier. Voilà. Et il y a également Xu Yanting. Donc, elle présente deux œuvres sonores. C'est elle également qui va donner une performance sonore dimanche prochain, le 20 octobre. C'est une artiste qui travaille beaucoup le son, une sorte d'œuvre entre une forme de documentaire et artistique. Donc souvent en lien avec les lieux où elle fait des résidences. Donc elle va également faire ça à Paris. Elle arrive le 18, elle va rester un mois à Paris pour créer sûrement une nouvelle œuvre. Elle présentera du coup pendant un deuxième concert ici à la Générale.
Le 9 novembre.
Le 9 novembre.
Voilà. C'est quel jour de la semaine, le 9 novembre?
C'est un samedi.
Un samedi, d'accord.
Et ensuite, il y a dans la salle, donc il y a deux œuvres sur le grand écran. Donc il y a une artiste qui s'appelle Zhang Enman. C'est une artiste donc aborigène, et donc avec sa vidéo, donc elle parle de escargots, parce que dans son tribu et pas mal de tribus à Taïwan, ils consomment des escargots, et donc elle retrace un peu l'histoire de migration de l'escargot qui vient de l'Afrique, et une sorte de comparaison avec des peuples qui migrent et cherchent un peu l'origine de la culture taïwanaise.
Mais rassurement, on mange aussi des escargots partout en Chine, non?
En Chine, je n'ai pas connaissance particulière.
Non,
à Taïwan, autrefois, on mangeait, mais un peu moins maintenant.
Ouais. Je me souviens en Corée, on mange des escargots. J'ai vu des gros escargots à vendre sur le marché. Des gros escargots.
Ah oui. C'est un type escargot assez spécial,
ouais,
qui a été importé par les colonisateurs espagnols. J'ai un peu oublié.
Bulot, on mange beaucoup de bulot.
Voilà. Ouais. Donc. Donc, du coup, l'artiste a tracé en fait l'itinéraire de ce marché, pas seulement de l'alimentation, mais aussi des autres assortissements.
Mmh. Donc là, il y a effectivement cet itinéraire, cette inscription dans l'histoire de l'île de Taïwan, en fait.
Oui, oui. Il y a aussi beaucoup d'hommes, du coup, qui parlent de l'histoire. Comme aussi dans cette salle, il y a Lily, donc c'est un artiste qui élève les pigeons et tout son travail se porte sur le pigeon.
Et est-ce qu'il a vraiment mis une caméra sur le dos d'un pigeon?
Oui,
c'est ça qu'on voit en fait. Hein,
oui,
c'est ça.
C'est ça qu'on voit.
Donc, c'est impressionnant, vraiment impressionnant.
Oui, et du coup sur le dos de pigeon, et du coup on voit ce que le pigeon voit. Et l'artiste aussi, il aime tellement ce pigeon. C'est une sorte de personne proche pour lui. C'est une sorte de symbole aussi pour l'histoire taïwanaise. Parce que dans cette œuvre, il parle de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, Taïwan a été colonisé par le Japon. Donc il y a un combat aérien entre les États-Unis et le Japon, mais qui a lieu à Taïwan. Et donc les deux côtés, ils avaient utilisé des pigeons messagers qui pouvaient passer les messages. Et des pigeons sont utilisés, mais après la guerre, bien sûr, sans utilité. Donc il y a une sorte de comparaison avec les Taïwanais en tant que peuple qui était... peuple du pays qui a perdu la guerre et ensuite repris par un autre pays qui gagne la guerre, mais qui continue à être en quelque sorte colonisateur. Je parle du parti nationaliste mené par Chiang Kai-shek qui est venu à Taïwan, voilà, etc.
Et il reste les petites installations avec les oiseaux et
oui,
les...
Voilà. Oui, c'est ça. Donc là, en haut, donc, on a les œuvres amenées par Xiao Shengjian. Donc, c'est un artiste qui est très doué pour fabriquer des petits objets mécaniques. Un peu plus tôt, il travaillait avec l'ordinateur, mais de plus en plus, il se rapproche de ce low-tech et de fait main et d'utiliser des mécanismes simples pour recréer des sons, des expériences sensorielles qu'il a eues enfant. Et il y a également Gwenola Vacon, donc l'œuvre de Gwenola Vacon qui est une artiste vidéaste française, mais elle est venue à Taïwan pour faire une résidence artistique. Et donc la vidéo qu'on présente ici, c'est elle est passionnée par les lucioles. Et c'est un site qui existe encore à Taïwan. Et il y a une équipe scientifique qui essaye de simuler leur état, leur habitat. Et pour continuer à observer ces insectes qui sont assez fragilisés par le changement de l'environnement.
Donc, qui a presque disparu en France. Moi, quand j'étais enfant, il y en avait partout. Et il y en a beaucoup moins maintenant. Bien. Et donc, on a aussi donc, des invités qui vont nous permettre de resituer un peu cette démarche artistique dans un contexte qui est un contexte, malheureusement aujourd'hui, on le voit, la géopolitique, personne ne peut ignorer que Taïwan est actuellement encerclé par l'armée de la Chine communiste. Et on voit pourquoi est-ce qu'on en parle autant en France, c'est parce que le monde entier en fait est dépendant de l'électronique en particulier qui est produite dans cette île. Et quand quelque chose ne va pas à Taïwan, ça se propage partout dans le monde très très vite. Et donc les Français sont très intéressés par ces enjeux géopolitiques. Et ça montre que donc sur votre petite île, vous avez une concentration importante de d'usines, de zones de production de haute technologie. Et en tout cas, nous, on a une vision, en tout cas, de votre pays comme un pays très, très orienté vers, justement, tout ce qui est très high-tech. Tu as parlé de low-tech tout à l'heure. Mais pour nous, c'est vraiment le pays... c'est le pays où on fabrique les microprocesseurs les plus finement gravés. C'est le pays qui possède l'essentiel des outils de production capables de graver très, très finement le silicium. C'est là-bas. Et même, ça appartient essentiellement à une seule entreprise. Qui est très puissante, tu l'imagines. TSMC, d'ailleurs, comme je l'ai mentionné dans l'annonce que j'ai faite, a un plan écologique et pour la protection de la biodiversité. C'est un peu paradoxal. Et donc, du coup, c'est une question qui, moi, m'intéresse. Comment est-ce que ces artistes, c'est une question que je pose à tout le monde ici, comment est-ce que les artistes qui ont cette pensée écologique, c'est une pensée aussi de l'attention à la qualité de l'alimentation, à la qualité de la culture, des traditions, de la diversité des peuples autochtones qui habitent sur l'île. Comment ça s'articule avec ce côté mondialisé, ce côté high-tech est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est conflictuel? Est-ce que ça se fait de manière harmonieuse? Là, ça, c'est une question que je trouve intéressante. Je ne sais pas. Qui veut répondre à cette question? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors toi, Yitian, géographe.
Non, plutôt, je fais l'architecture. Je fais l'architecture en travaillant une recherche vers géographe. géographique. Et donc, si en revenant vers les œuvres, par exemple, celui de John Hammond ou le film de Luz Diod, ou même, vous voyez, dans cette salle, on a pas mal de sujets qui parlent de l'écologie de Taïwan aujourd'hui. Donc, là, ça me fait penser quelque chose aussi paradoxal comme Emmanuel a raconté. Donc, je fais un exemple. Dans ma culture, je suis née à sud-est de Taïwan. Hein. Donc, on dit le dernier endroit vieille de Taïwan. Donc, c'est la campagne. Donc là où je suis née, on cueille, pourtant pour les sociétés Han, voilà, on cueille dans notre société les légumes, on peut dire les plantes sauvages. On se trouve dans les champs ou dans la pleine nature, à la forêt. Voilà. Mais ceci dit, je gardais comme cette habitude quand je suis arrivée en France. Donc je me rappelle très bien, dans mon quartier, il y a pas mal des abeilles. Donc un jour, comme d'habitude, je cueillis les plantes sauvages que je connais à Taïwan. Donc les abeilles qui en voient, me disent que je pense que dans mon pays d'origine, on mange également ce genre de plantes, voilà, de légumes sauvages. Ouais. Mais bon, je continue à cueillir. Et vers un jardin, on peut dire, vers un jardin d'une maison d'une famille française, apparemment. Voilà. Et le propriétaire vient me voir en me disant que. Je ne suis pas sûre si ces plantes sont comestibles. Voilà. Donc là, vous voyez, d'un coup, c'est très vite. On rentre le sujet entre les différentes sociétés. Ceci dit, je reviens un peu vers la géographe Obisambek qui l'a bien remarqué, bien marqué.
Quel géographe?
Obisambek.
Ah, ouais. Augustin.
Ceci dit, en
c'est Occitan. Mon voisin.
D'accord, très bien. Donc, en Occitan, on ne trouve plus du tout l'environnement sauvage. Donc, ceci dit, c'est déjà très humanisé. Ouais. Puisqu'on a entre l'Orient et l'Occidental, on a une vision assez différente pour gérer notre terre. Voilà. Mais par contre, à Taïwan, une petite île, sachant que l'autre fois, on est autonomie. Ceci dit, on a tout ce qu'il faut. Et donc, voilà, ce genre de plantes, plantes sauvages qu'on a dit, par exemple, aujourd'hui les aborigènes qui mangent beaucoup encore et les Han plus ou moins. Oui. Donc la plupart des légumes, des alimentations qui ont été importées également par les étrangers, depuis des étrangers. Voilà, donc, voyez, c'est d'un point de vue assez choc pour moi quand je passe ici de vivre en France, je veux dire. Donc, en revenant au sujet du high-tech, ouais. Donc, je pense que Taïwan qui cherche une économie vivante à partir des étrangers. Ceci dit, on devait, pour être autosuffisant, on devait continuer à faire la production high-tech. Et puis, pour maintenir cet équilibre de l'île, de Taïwan. Donc, je veux dire, un autre phénomène que je remarque beaucoup à Taïwan, quand je vis à Sud-Est, à Taïwan. Donc, il y a beaucoup de gens, pas forcément des ingénieurs, qui travaillent par exemple dans les usines ou dans ces compagnies qui produisent les high-tech. Enfin, vous savez la vie de ces gens qui sont quand même assez stressés dans leur travail, comme les ingénieurs ou les gens qui sont dans la production. Mais ceci dit, à Taïtan, l'ouest de Taïwan, là où j'habite, j'ai rencontré depuis une dizaine d'années ou même 20 ans, beaucoup des ingénieurs, par exemple, qui travaillent d'autres fois à l'ouest de Taïwan, qui finalement, ils ont finalement choisi de quitter l'ouest pour s'installer à l'est de Taïwan. Ouais. Par exemple, ils achètent un terrain ou même ils louent un terrain où ils reconstruisent une nouvelle vie. Donc, c'est avec l'ensemble des situations que je découvre à Taïwan aujourd'hui, ou même depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc je trouve que high-tech qui continue à grandir, on peut dire, à progresser à Taïwan pour chercher une économie qui soutient ce pays, voilà, économiquement. Mais par contre, écologiquement, l'environnement, on cherche de retourner également comme la vie de Bahamas. Ouais.
Est-ce que c'est possible? Est-ce que le pays n'a pas été complètement transformé par l'industrie?
Je ne pense pas.
Oui. Donc c'est possible, il y a encore des zones sauvages, il y a encore des...
Oui, puisque oui. Taïwan, ça reste comme un pays assez sauvage. Je veux dire, il y a quand même une large partie de l'environnement sauvage, on dit, ouais. À Taïwan.
Parce que la plupart des Taïwanais sont plutôt végétariens.
Pas du tout. il y a une grosse partie, mais pas tous.
D'accord.
Ouais, ouais. Mais je veux dire, si on retourne comme ces habitants dont je parle, les gens qui travaillent autrefois à l'ouest de Taïwan, qui finalement s'installent à Taïwan, ça devient de plus en plus végétarien, on peut dire, ouais, puisque ils préfèrent, ceci dit, dans cette terre, ils trouvent beaucoup plus de plantes, des légumes, ou même des plantes.
Alors, côté plus, les plantes élever les animaux, les porcs, les bœufs. L'industrie,
oui.
L'élevage, les animaux là.
Oui,
les cochons et les bœufs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a énormément, là.
Il y a beaucoup d'importations. J'ai regardé en fait les statistiques. Malheureusement, l'indépendance alimentaire de Taïwan est très, très en danger, en fait, puisqu'il y a environ les deux tiers de la nourriture qui est importée. Ouais. Et c'est probablement parce que les gens mangent trop de viande.
Ah, d'accord.
Et il y a une bonne production de riz, je crois, mais par contre, il y a beaucoup d'importations de bœufs. Il y a des contrats avec l'Amérique. Il y a des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de poulets industriels.
Mais tu dis les plantes sauvages, plutôt c'est pas plantes médicinales.
Ça peut être. Oui. Par exemple, la morelle. Voyez la morelle noire ou les orties que nous aujourd'hui en France.
Les plantes,
le chou. c'est ça.
La morelle noire. Ouais. C'est aussi
ça,
une plante.
Ça, ça pousse sur le toit, oui, et c'est la morelle noire. Moi, je l'arrache, je pense que c'est une mauvaise herbe, en fait. C'est...
Ah non, enfin, au moins, je passe, mais pour les Français, non. Pour les Occidentaux, non.
Ouais. Mais par contre, les orties aussi, ça pousse sur le toit. Ici, on les mange à chaque fois. Mais...
Les orties, ça se mange beaucoup au sud de la France. Ah, d'accord. Ouais.
Mais la morelle noire, moi, j'en ai beaucoup sur le toit ici. Je l'ai toujours arrachée.
Maintenant,
je vais y réfléchir.
Ouais.
Peut-être, on peut... Donc, sur la question des artistes proprement dit, comment ils arrivent à survivre dans cet écosystème entre high-tech et tradition? Est-ce que toi qui es commissaire ou historien d'art, quelle est ton opinion là-dessus?
Alors, je vais d'abord me présenter un petit peu.
Oui.
Je m'appelle Xiangping. Alors, je suis plutôt chercheur que critique en fait. Donc, je suis doctorant actuellement en esthétique à Paris 8.
Mm-hmm.
Et mon sujet de recherche est plutôt sur la pratique collective d'artistes. Qui développent leur pratique dans le milieu de l'Asie du Sud-Est, donc contre Taïwan. Donc, pour moi, c'est très compliqué de parler de ce sujet très, très grand, très gros. Par exemple, la politique, la technique et la tradition aussi. Tout ça, ce sont des sujets très. Très, très difficile à apporter quoi. Mais ma tâche ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est pour vous donner un peu cette idée générale par rapport à ces trois sujets-là, ou par rapport à la politique, ou bien plutôt le rapport entre la politique et la pratique artistique à Taïwan, forcément taïwanaise. Hein. Parce qu'on voit bien sûr Gwenna Wacom, l'artiste française. Qui travaille bien sûr à Taïwan, mais on ne croise pas vraiment avec une candidate taïwanaise ou une artiste taïwanaise, donc une artiste française, mais quand même, c'est un artiste à Taïwan, donc pour moi c'est plutôt la pratique artistique à Taïwan. Donc pas vraiment dans le sens de l'identité politique, mais plutôt dans la pratique artistique même, ou bien plutôt la subjectivité. Dans cette pratique artistique-là. Donc, je pense peut-être pour les Français ou pour la plupart des personnes qui veulent dire peut-être européens ou les résidents qui habitent en France connaissent la situation géopolitique de Taïwan, la situation écologique de Taïwan à partir de la pandémie de Covid-19 parce que on sait qu'en fait, c'est à partir de cet événement, cette pandémie tragique que cette chaîne logistique qui a commencé à être mise à nu pour tout le monde. C'est que pourquoi Taïwan s'occupe d'une place assez importante dans ces chaînes, dans cette spécialisation mondialisée de la chaîne logistique actuellement. Ce qui nous étonne, c'est qu'en fait, c'est aussi à cette pandémie, dans cette pandémie-là, Taïwan a fait une biennale, a continué à faire une biennale à Taipei en 2021, qui a été dirigée par trois commissaires, dont deux sont français, c'est Bruno Latour. Et Madame Guinard.
Et qui, pardon?
Martin Guinard.
Ouais. D'accord.
C'est un commissaire qui travaille très étroitement avec Bruno Latour depuis très longtemps. Puis un commissaire, et c'est Yvan Lim.
Donc typiquement, la pensée de Bruno Latour est connue à Taïwan. D'accord.
Oui, depuis très longtemps, parce que Bruno Latour est déjà venu à Taïwan, je crois que c'était au début de 2000, en fait. C'était 2002. Qui a fait un échange scientifique avec le chercheur. Donc, on a fait cette biennale avec une idée très, très patente sur l'écologie, sur la politique écologiste en particulier. Donc, on parle de la notion d'atterrir. C'est une notion qui qui a été développé par Bernatour depuis certaines années. Donc Bernatour a amené ces notions-là comme un sujet de réflexion pour cette édition biennale. Et en plus, ils ont développé un projet assez ambitieux, un projet d'écologisation assez ambitieux à Taïwan, à l'intérieur de Taïwan, plutôt à Taipei plutôt. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un terrain de forêt sur montagne, et ils ont pensé qu'ils puissent
remettre une forêt.
Oui, remettre une forêt.
Reforester, on va dire.
Reforester, c'est ça. Pour absorber le CO2, le carbone, c'est ça ?
De la production industrielle ?
Oui. Non, ta production de CO2 émise par...
par la biennale.
Oui, par la biennale même, de Taipei. C'est une idée assez ambitieuse, mais en même temps, c'est assez folle, si on peut se dire. Donc, ils ont communiqué avec le gouvernement Taipei pour voir s'ils puissent avoir le droit de collaborer avec le gouvernement, etc. Et enfin, c'était très compliqué de la démarche. Et le résultat final, c'est que le projet a échoué, bien sûr, parce que ça crée un scandale avec les habitants locaux. Ils ont trouvé pourquoi vous devez déforester d'abord pour reforester ensuite.
Mm-hmm.
Et ça, est-ce que ça crée encore plus le CO2 ? Là, c'est une question. Ça veut dire qu'il est difficile de calculer le chiffre exact,
oui,
et le futur exact de ce qu'on va faire dans le futur.
Ça, c'est clair. Et c'est je veux dire, je pense que scientifiquement, c'est très peu probable que l'on puisse compenser les émissions d'une biennale d'art contemporain, même si le projet était facile à réaliser, ça serait certainement des quantités énormes de... L'impact de la biennale est certainement énorme.
Et on se demande pourquoi on ne peut pas. Parce que l'écosystème, c'est compliqué, c'est imbriqué par beaucoup plus sous l'écosystème. C'est un système de complexité écologique.
Oui.
On ne peut pas isoler un écosystème pour calculer, pour faire une expérimentation. Et c'est la même situation à Taïwan. On ne peut pas isoler Taïwan.
Et alors j'ai une question, cette biennale qui invite Bruno Latour, qui a des ambitions écologiques très fortes, est-ce qu'elle est subventionnée par TSMC par exemple, ou par... qui sont les personnes qui financent l'art contemporain à Taïwan ? Est-ce que c'est les grandes entreprises technologiques ? Est-ce que Bruno Latour est financé par les microprocesseurs ? C'est ça ma question.
Ça je pense pas. Parce que c'était déjà très clair de... sponsor de la Biennale TV, c'est plutôt, je veux dire, tous les ressources financières viennent plutôt du gouvernement
national,
du gouvernement national, pas vraiment d'entreprise privée.
D'accord.
C'est une autre question plutôt complexe.
D'accord.
Et pourquoi je commence avec cet exemple-là ? Parce que vous parlez de la question politique écologique à Taïwan, c'est vraiment très compliqué, il faut vraiment... voir dans quel niveau on part, et aussi dans quel rapport entre la politique et l'art on part. Et je pense peut-être qu'on peut commencer, enfin, on a déjà commencé avec un exemple, mais peut-être on peut aussi avoir une petite idée générale sur l'histoire politique à Taïwan et comment, dans cette histoire, les artistes développent des pratiques artistiques qui répondent. Comment cette histoire politique et écologique à Taïwan, si on a le temps.
Alors, ici, on a eu un séminaire sur l'histoire politique de Taïwan il y a un peu plus d'un an,
d'accord,
avec un militant syndical taïwanais qui est venu nous raconter la complexité. Mais par contre, on n'a pas du tout placé les mouvements artistiques là-dedans. D'accord. Comment est-ce que les artistes se sont... positionné dans un contexte politique qui a longtemps été très contraint, presque une dictature.
Alors, ok, à Taïwan, en fait, on peut penser que l'histoire taïwanaise, en fait, c'est une histoire qui est composée avec différents processus de colonisation jusqu'à maintenant. Enfin, je suis plutôt militant dans ce contexte-là. C'est-à-dire que je pense que Taïwan est encore colonisé par des pouvoirs politiques et pouvoirs économiques aussi. On sait que en fait, depuis très longtemps, depuis le 17e siècle, les Taïwanais, les indigènes, je veux dire, ont été colonisés par, successivement hein, par les Hollandais, Espagnols, et après par la dynastie Qin, c'est-à-dire la Chine. Et après 1895, Taïwan a été colonisé par l'Empire japonais. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Taïwan a été recolonisé par la Chine, par la partie Kuomintang. Et c'est pas une perspective historique assez partagée à Taïwan, même en France. Parce que pour les chercheurs plutôt dans le courant principal de l'histoire politique ou de la science politique, ne pense pas qu'on fait de partie Kuomintang, qui vient de la Chine et d'un parti de colonisateurs. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'en fait, la technique du gouvernement, de la gouvernance de ce parti communal qui vient de la Chine, c'est la gouvernance même de colonisateurs qui peut partager partout les colonisateurs dans le monde entier, et avec différents moyens, avec différentes manières, différents styles, bien sûr, etc. Donc je pense que Taïwan actuellement est toujours sous ces colonisations qui en cours. Par exemple, pour notre nom national, c'est la République de Chine.
Oui.
Mais on préfère dire Taïwan. Et en fait, tous les étrangers, par exemple les Français, connaissent plus Taïwan que la République de Chine. Et ils connaissent plutôt la République populaire de Chine. Oui. Donc déjà, il y a cette complicité géopolitique et historique qu'on doit vraiment questionner un peu plus. Il faut savoir comment les artistes, bien sûr les artistes indigènes qui répondent à ces questions-là, ces complicités géopolitiques-là. Par exemple, l'artiste Yaruizong, on voit, c'est une autre perspective pour répondre à ces questions aussi. Voilà. Et il y a aussi un sujet de colonisation très fort, disons du capitalisme néolibéral, on peut partager par tous. Dans ce cas-là, la question de la décolonisation imaginaire devient très importante, très essentielle dans la pratique artistique, pas seulement dans la pratique politique, mais aussi la pratique artistique. C'est aussi un sujet dont on sert la touche par le monde, dans son livre, dans sa publication. Donc, la décolonisation imaginaire. Et comment on pourrait vraiment décoloniser l'imaginaire néolibéral, l'imaginaire de colonisation politique, quel que soit colonisation chinoise, colonisation japonaise, etc. C'est un sujet aussi post-colonial. Mm-hmm. Et comment, à travers ces histoires, les artistes taïwanais répondent à ce sujet-là, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la colonisation japonaise, il y a des peintres d'artistes qui peint le sujet local pour un peu développer leur identité locale, voilà, pour résister à la colonisation japonaise. Et d'un autre côté, il y a aussi des artistes qui sont influencés par les arts prolétariens, qui est en fait importé par les Occidentaux au Japon. Et puis quand le Taïwan a été colonisé par les Japonais, donc pour les Taïwanais qui sont allés au Japon pour étudier, ils sont importés de nouveau cette pensée de prolétariat, c'est-à-dire la pensée communiste. à Taïwan. Donc il faut savoir qu'en fait, depuis très longtemps, il y a déjà cette pensée de décolonisation en termes de prolétariat, de prolétaire à Taïwan. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment la dictature du Parti communiste, Parti chinois. Donc du coup, ces pensées communistes ont été vraiment réprimées par la dictature communiste. Par exemple, on a des artistes qui développent des sujets du réalisme socialiste à Taïwan. Ça a été réprimé par la communauté, par exemple. Et après la fin de la loi Marcia, c'était en 1987, c'est-à-dire au cours de presque 40 ans de loi Marcia, de la dictature. Les artistes taïwanais développent plus des sujets politiques pour répondre à ces complicités de la colonisation en Taïwan, par exemple. On reprend le sujet polémique de l'identité taïwanaise, qui a été pressé, par exemple, par le gouvernement du Parti communiste, qui pense que c'est plutôt l'identité confuciste, c'est l'identité chinoise, qui doit être, comme dit, dominant dans toute la culture taïwanaise. Et tout le reste, par exemple, les identités indigènes, les identités taïwanaises, n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est un peu dans ce contexte-là qu'en fait, à partir des années 1990, les artistes taïwanais développent plein de leurs œuvres par rapport à cette identité taïwanaise. Et après, il y a, par exemple...
J'ai une question. Oui. Vu de France, dans les années 90, on a vu beaucoup de cinéma taïwanais qui était très populaire en France. Oui. Comment ces artistes de cinéma se situent là-dedans? Est-ce qu'ils avaient eux aussi une vision politique? On a vu... Pour nous, c'était difficile de comprendre ces enjeux. On voyait surtout une vision poétique.
Alors, bien sûr, mais comme je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, je vais dire la bêtise, mais on a par exemple un directeur du cinéma, c'est réalisateur du cinéma, c'est Hou Shaoxian, qui a des films de l'époque où Kuomintang vient de venir à Taïwan pour coloniser. Voilà, il y a plein de tragédies. Mais il y a plein de cinéma qui racontent cette histoire tragique.
Notamment son film Beijing Chanshi dans la ville de la poussière du monde. Voilà, donc c'est tourné au nord de Taipei et tout le film du coup est vraiment authentique. Personne ne parle chinois mandarin parce que c'est vraiment l'époque. Soit on parle taïwanais, soit on parle japonais. Et je pense qu'il se positionne clairement contre de Kuomintang.
Mais est-ce qu'il y a un lien avec le monde de l'art contemporain de l'époque? Est-ce que ces cinéastes un peu... Parce qu'en France, on a vu ça comme des films un peu intellectuels, on va dire, un peu très élaborés. Je pense aussi aux films de Tsai Ming-liang, qui sont très subtils. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est des communautés artistiques séparées?
C'est une communauté, mais c'est aussi, il y a un lien aussi, parce qu'à cette époque-là, par exemple, début de 1990, ou à la fin de la loi martiale en 1987, c'est l'époque où l'art contemporain à Taïwan est né, où se développe. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un rapport, il y a un lien étroit. Se développe à partir de plusieurs communautés, cinéastes, communautés du milieu théâtral et du milieu de l'art visuel.
C'est marrant, en t'écoutant, du coup, j'ai pensé à une œuvre assez précise que j'aimerais partager. C'est une œuvre de Yao Ruizhong. Bon, c'est un peu petit, par contre. Voilà, donc c'est une œuvre de cet artiste, Yao Rui Zhong, et qui date des années 1994. Et justement, Emmanuel a demandé les artistes de même époque recherchés. Je me rappelle comme l'histoire taïwanaise de cette époque est tellement lourde, tellement triste. Quand j'étais petit, je vais au musée de Beaux-Arts à Taipei, j'ai horreur d'aller voir parce que c'est assez violent, les œuvres assez crues, et on parle vraiment beaucoup d'histoire politique, et c'est difficile à porter, à supporter. Et donc, Yao Rui Zhong, il est un petit peu plus jeune par rapport à cette génération d'artistes, et avec ses performances dans les années 90, donc il a rajouté une part de ironie, de fiction. Par exemple, là, cette œuvre, il a c'est une photo, en fait, on voit un site, une ruine, et c'est le château, le fort qui est construit par les Hollandais à Tainan. Donc il y a plusieurs ruines comme ça qui montrent l'histoire de la colonisation dont parle Xiangping. Donc par exemple, il y a des Français qui ont construit dans le nord de Taïwan, il y a les Japonais qui ont construit plein partout. Et donc ce qui fait Yao Rui Zhong, c'est d'aller uriner à ces endroits-là. Ouais. Voilà, donc par la parodie, il donne un peu de légèreté, mais vraiment de manière très satirique. Donc il montre comment Taïwan, cette terre, a été traitée par les différents pouvoirs extérieurs.
Et du coup, donc tu as parlé de l'aspect colonisateur du capitalisme industriel. Est-ce qu'il y a eu un moment dans cette histoire où les artistes ont commencé à parler de cette force industrielle de l'île de Taïwan?
Bien sûr, depuis le début de la contrebande à Taïwan. Par exemple, à la fin des années 1980, c'était 1988, il y a des artistes qui résistent en fait aux déchets nucléaires qui vont déposer dans une île, qui s'appelle l'île Laiyu. Donc ces artistes-là ont développé un projet collaboratif, collectif, à cette île de Laiyu. Donc c'est un projet écologique, artistique aussi. Et un autre exemple, il y a plusieurs exemples qui se développent aussi dans l'Est de Taïwan. Par exemple, en 2011, il y a association de lutte contre le projet touristique de Taïtong Mihama, c'est un village touristique. Et en 2013, il y a aussi un projet artistique collectif écologique qui continue dans cette ligne-là. C'est un projet qui s'appelle Le Tipa au revoir aux côtes est, le mouvement du tour à pied. Et aussi un autre projet qui se développe dans le nord de Taïwan, ça s'appelle Art comme environnement, l'action culturelle pour le ruisseau du Prunier. Ce sont des projets écologiques assez premiers à Taïwan. Mais nos questions, c'est qu'en fait, c'était comme si la pratique artistique et ces mouvements politiques et écologiques sont combinés très étroitement. Il y a aussi le paradoxe ou contradiction par le sens. De la politique d'un côté, là de l'autre. Par exemple, en 2008, c'est la sixième édition de la Biennale Taipei. Donc pendant la période d'exposition, il y a un événement politique assez marquant, c'est qu'un politique chinois très, très important qui vient à Taïwan au nom de la réunification. Du coup, il y a beaucoup de manifestants qui sont allés dans la rue pour protester contre l'arrivée de ce politique chinois.
Tu veux dire de la Chine communiste?
Oui,
la Chine communiste.
Mais
qui sont présents?
Qui est venu? Il est venu à Taipei
pour une visite avec les politiques du parti Kuomintang. Et à ce moment-là, en fait, dans la sixième édition de la Biennale Taipei, le sujet, c'est aussi la résistance politique. Mais ce qui est ridicule, c'est qu'en fait, toutes les pratiques artistiques qui se développent dans la ville de Taipei ne fait aucun écho avec la situation politique ou la situation politique qui est en train de se dérouler à ce moment-là. Donc ça crée un écart entre le monde de l'art et le monde politique ou le monde social actuellement. Mm-hmm. Donc la même situation arrive dans je crois que c'était 2014, il y a un mouvement des manifestants assez connus, c'est la révolution, le mouvement de Tournesol à Taïwan. Ici contre le projet politique économique de la Chine au nom de la réunification naturelle. Donc ça, c'est un moment très répandu à Taïwan à cette époque-là. Mais il y a plutôt une commissaire qui voudrait récupérer ces mouvements politiques. Comme si ces mouvements, c'est aussi un mouvement artistique. Et du coup, ces commissaires-là, elles voudraient donner un prix pour ces mouvements politiques comme un mouvement artistique. Et ça crée un scandale. Pour la raison que pourquoi le monde là pourrait récupérer les manifestants politiques comme ça. Comme si un geste simple. Un peu comme du champion, mais c'est pas vraiment de la même manière. Mais...
On est en ligne jusqu'à 21h.
C'est ça, ouais.
Donc dans 5 minutes, on va cesser d'être diffusé sur la radio.
Sur les ondes.
Mais après, ici, l'habitude, c'est qu'on partage un repas et on continue à discuter aussi longtemps que vous voulez en posant des questions aux expertes et aux experts qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez conclure cette première partie avant qu'on mange, qu'on passe à table, là, en quelques minutes, pour conclure cette première partie de la discussion. Pas spécialement.
Bon,
donc, oui, moi, je vous remercie beaucoup. J'ai compris que, donc, finalement, c'est des questions qui sont... L'intrication entre le monde de l'art et la politique est finalement assez intense à Taïwan. Les artistes... prennent des positions très fortes donc en particulier certains des artistes aussi qui sont ici présents à la Générale aujourd'hui, finalement je comprends qu'ils sont très impliqués dans le... Est-ce que tu peux rappeler le nom de cet artiste qui a fait la... Voilà. D'accord, donc j'avais pas compris que c'était quelqu'un qui avait une longue carrière derrière lui et qui avait donc fait toute une sorte de performances, y compris donc des performances anticolonialistes.
Oui, faisant... c'est un artiste, c'est vrai que je disais influent parce qu'il enseigne aussi à l'université et en fait pendant 10 ans, entre 2009 à 2019 à peu près, il a mobilisé tous ses étudiants a fait un terrain massif sur les constructions publiques inoccupées.
Les constructions publiques,
oui. Inoccupées. Mmh. Et en fait, la ruine, les constructions qu'on voyait, ils filment vraiment la ruine, etc. C'est des ruines.
Les ruines, oui.
Les ruines, une sorte d'héritage, de témoignage de l'histoire taïwanaise, mais... en gros, toutes les constructions inoccupées, c'est sa recherche. Et donc, il a mobilisé ses étudiants pendant 10 ans à documenter, à photographier toutes les constructions publiques inoccupées.
Donc, et ici, donc, on voit des choses militaires, probablement.
Oui, ça, c'est autre chose. Voilà, du coup, ils ont publié leurs résultats en 7 catalogues différents. Et en fait, le résultat est tellement étonnant, les médias ont rapporté et ça a été monté jusqu'à le gouvernement. Il a été reçu par le Premier ministre et le plan d'amélioration, de réactivation était en cours. Donc, c'est, voilà, ça montre que son œuvre peut faire quelque chose, amener quelque chose concrètement dans la politique. Donc, c'est un exemple un peu plus rare de manière positive.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Je me lancerai.
Oui. Okay.
Ici, Occident, en tout cas ici en France, on voit sûrement les choses de manière très binaire. Les méchants chinois et puis les gentils américains. Enfin, je caricature parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Mais est-ce que justement, vous, les artistes, et peut-être même l'écologie, n'est pas un espace où justement il y a complètement autre chose, là, la question n'est ni chinoise, ni occidentale. Est-ce qu'il y a quelque chose que. Ce serait bien de nous dire, à nous autres, qui voyons les choses de manière un peu binaire, c'est de la curiosité sincère.
Quand tu dis chinois, tu veux dire Chine communiste, c'est ça?
Je veux dire le grand pays qui encore déployait des avions, si je me réfère aux informations occidentales aujourd'hui.
Ouais, je pense justement, Taïwan, en ce moment, est la tendance actuelle, c'est vraiment une recherche sur le local, tout ce qui est local, qui est proprement à notre terre, à notre culture. Et on essaie justement de sortir cette sorte de binaire entre la Chine continentale et les États-Unis. On essaie de. Et il y a aussi une politique, une stratégie politique qui est proposée par plusieurs présidents à partir de Li Denghui et récemment notamment par Tsai Ing-wen. Ça s'appelle Southern Policy, donc c'est pour développer vers les pays du Sud comme Vietnam, Thaïlande, Indonésie, donc avoir des échanges économiques. Culturel, etc. Donc,
en dehors des empires, c'est ça.
On crée Taïwan vers international. Du coup, échange avec la France aussi. Au niveau culture, il y a beaucoup de plus en plus d'échanges culturels. Donc avoir une visibilité internationale de Taïwan en dehors de pays.
Moi, je propose qu'on continue les questions en mangeant, parce qu'on a préparé un poulet avec des morceaux de potiron. Donc, le poulet est français, le potiron aussi, mais dessus, il y a une sauce chinoise. Voilà. Qui traînait ici. Et puis, on a aussi de la salade. Et voilà, on sera ravis de partager ça avec toutes les personnes qui sont là. Il y a du riz. Il y a de quoi donner à manger à tout le monde, je pense. En tout cas, merci. Puis en tout cas, ça continue avec sur le mode informel pendant aussi longtemps que vous voulez. Voilà. Merci.